Alors simplement ce soir, j'avais un sujet à cœur et qui se présente un peu sous cette question, une question qui pourrait servir de titre à ce partage ce soir. Dieu est-il pour l'occultisme, pour le spiritisme, pour la voyance, l'astrologie, les guérisseurs, toutes sortes de choses comme ça? Dieu est-il pour cela? On pourrait avoir une réponse claire, rapide, mais on va voir ensemble qu'il est important de se poser ces questions et de chercher dans la parole de Dieu ce que dit Dieu, ce que pense Dieu et quelles sont les conséquences pour celui qui s'éloigne et pour celui qui s'y plonge. Voilà. Qu'est-ce que c'est d'abord que l'occultisme? L'occultisme, c'est tout ce qui est des sciences occultes. Alors, ça aide pas, mais tout ce qui est caché sous une sorte de mystère. C'est une science des choses cachées, comme un mystère. C'est la recherche des forces mystérieuses dans le cosmos, d'après le dictionnaire, ou dans l'homme. Chercher des forces, des pouvoirs, des puissances mystérieuses dans le cosmos ou bien dans l'homme. C'est chercher dans l'homme la force, le pouvoir caché et privé. C'est ça, l'occultisme. Le spiritisme, c'est toute une superstition qui a engendré des réflexions chez les hommes qui ont trouvé toutes sortes de pratiques et de gestuels, de rituels pour invoquer les esprits, pour faire toutes sortes de choses comme ça, des forces un peu cosmiques, mystérieuses, cachées. Voilà, c'est tout ça. Et on va voir un peu plus en détail. Mais dans 1 Pierre, pour commencer vraiment, j'aimerais qu'on lise 1 Pierre, chapitre 2 et verset 9. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Je le répète, vous qui avez été appelés des ténèbres à son admirable lumière. Je prends ce texte exprès pour nous rappeler que l'homme n'est pas fait pour être dans les ténèbres, qu'il n'est pas appelé à vivre dans les ténèbres, mais à vivre dans la lumière. Et je dis ça de tous les hommes, et plus particulièrement, des chrétiens. Des gens qui sont sauvés par le sang de Jésus-Christ, qui a coulé à la croix, sauvés de leur péché. On l'a dit, le pouvoir du péché, il peut être ôté seulement par Christ, par son œuvre expiatoire, par la croix. Et on le reçoit, ce bénéfice, cette force, cette puissance pour être détaché de l'esclavage du péché, des ténèbres, de tout ce qui est caché, mauvais. Cette force nous vient de Christ, par grâce, gratuitement, mais par le moyen de la foi, de la confiance en Dieu, du fait qu'on croit que Jésus a voulu nous sauver par son sacrifice. Oui, on voit qu'on n'est pas appelé à marcher dans les ténèbres, mais dans la lumière. Or, l'occultisme, ces choses qui sont cachées, ces choses qui sont entretenues dans le mystère, dans le mysticisme, j'oserais dire, toutes ces choses ne sont pas bonnes, et Dieu dit, ce n'est pas à ces choses que vous avez été appelées, mais aux choses de la lumière, choses qui sont en lumière, la transparence, la vérité, et non pas les choses cachées, les choses mystiques, mystérieuses, que nous proposent toutes ces puissances et ces choses ténébreuses, occultes. On fait une autre lecture dans Deutéronome au chapitre 18 et au verset 9, Deutéronome 18, 9. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, qu'à quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Est-ce que vous croyez que ces paroles sont importantes ? Moi, je le crois. Et pourquoi j'en suis venu à parler de toutes ces choses, et j'ai quand même demandé au Seigneur si c'était vraiment sa volonté pour nous ce soir, et ça s'est imposé à mon cœur. Je pense que c'est vraiment ça qu'il aimerait, simplement que j'engage simplement une réflexion là-dessus, et je n'ai pas la prétention de dire tout sur l'occultisme, sur la voyance, sur toutes ces choses. Loin de là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je ne pense pas que je suis le mieux placé pour en parler non plus. Je n'ai pas fait d'expérience vraiment avec tout ce qui est démonologie, etc. Je ne peux pas dire ça, mais simplement si je peux vous donner l'envie, la soif de chercher dans la parole ce que Dieu pense de ces choses-là, alors j'aurai accompli ma mission. Vous comprenez ? Ce soir, je ne vais pas faire tout le tour du sujet, mais simplement vous éveiller sur et vous donner peut-être l'envie de faire attention aux choses que le diable veut utiliser pour nous détourner. Pour nous détourner, il veut détourner notre attention sur l'essentiel. Et il veut même s'insinuer dans nos vies de manière insidieuse, de manière sournoise. Il veut rentrer par simplement une petite porte qui serait ouverte sur la superstition ou ces choses-là qui sont en abomination aux yeux de Dieu. On le voit, il dit ça à son peuple, le Seigneur parle à son peuple et dit « Tu vois si je te donne ce pays de Canaan, si je te donne cet endroit-là, c'est pas parce que c'est le plus beau et le meilleur. C'est pas pour ça, en fait, que le Seigneur le donne. Bien que ce soit le plus beau et le meilleur. Mais je crois qu'il y en a un qui veut voler ce qui est beau et ce qui est meilleur. Et il avait pris place au meilleur endroit. Mais simplement, Dieu donne cet endroit à son peuple parce qu'aussi c'est là qu'il se passait les pires choses. Et Dieu voulait mettre son peuple là où il y avait les pires choses qui se faisaient. On vous sait qu'à cette époque-là, juste avant que le peuple de Dieu rentre dans le pays Canaan, des gens offraient leurs enfants à leurs idoles. Ils sacrifiaient au feu, c'est bien dit là, des bébés, leurs enfants, leurs premiers-nés. Ils l'offraient à leur Dieu, à leurs idoles. Et ça, c'était comme le pire que l'homme puisse faire. Vouer son enfant à un Dieu en le brûlant au feu. Quelque chose d'horrible. Je l'ai déjà raconté, qu'il faisait des grandes statues de métal, il les chauffait à blanc, il faisait une fournaise au niveau du ventre, il mettait du bois, du bois, du bois, du bois, ils allumaient, le métal rentrait en fusion, ça changeait de couleur, et ils étaient là en transe, en adoration devant ces statues, et ils posaient sur des mains de métal qui étaient faites, ils posaient les bébés, et les bébés brûlaient sur place. Quelque chose d'horrible. Il y avait des hurlements, les bébés se roulaient et peut-être des fois ils arrivaient à s'enlever, ils tombaient par terre, ils mouraient de leur souffrance, des blessures ou bien s'ils ne mouraient pas, ils étaient marqués, défigurés à vie. Et ça, c'est une abomination aux yeux de Dieu et ça, c'était des suites de l'idolâtrie, de l'occultisme. Ils adoraient Moloch, le dieu des mouches. Et les mouches, ça vient là où il y a la corruption, là où il y a la mort. Un jour, mon père était là, et dans le jardin, on habitait juste au-dessus de l'église, et c'était une villa, et il y avait un jardin, et donc une clôture avec d'autres villas autour, et un jour, il promène, et il sent une odeur bizarre, une odeur de mort. Et alors, il cherche, il est là, il cherche, et il respire, et il cherche, il sent, et puis au bout d'un moment, il est conduit, et ah, il trouve le cadavre d'un chat mort, un chat mort. Et qu'est-ce qui se passait ? Dans la mort, il y avait la vie. Toutes sortes de vers qui étaient là, qui grouillaient. C'était horrible, horrible. Et c'était là, ça se mélangeait partout. Un jour, quelqu'un était là et pareil, avait cuit un steak haché. Et sans faire exprès, il a fait tomber le steak haché entre la gazinière et le mur. Et par paresse, il ne l'a pas ramassé tout de suite. Et au bout de quelques jours, il a retrouvé son steak haché. En faisant un peu le ménage, et il y avait plein de vers qui étaient là et qui grouillaient sur le steak haché. La corruption dans la chair morte, ça. Et eux, ils adoraient le dieu de la mouche, le dieu des mouches, Moloch, le dieu de la mort. Et ils donnaient leurs enfants, ils sacrifiaient leurs enfants au feu. Mais Dieu compare ça et met au même niveau quoi d'autre ? Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin. Oh, les devins. C'est pareil pour Dieu. L'astrologue, l'astrologie. L'augure, quand on dit « oh, c'est de bon augure », de mauvais augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou ceux qui disent la bonne aventure, lire dans les mains, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. On va voir ce que c'est qu'un devin. Un devin, c'est celui qui devine ce qui est caché, ce qu'on ne peut pas savoir de nous-mêmes. Et il paraîtrait qu'il aurait un pouvoir de deviner les choses cachées. Ce pouvoir lui serait donné par les sciences occultes et il viendrait aussi de la superstition. À la base de tout ça, il y a la superstition. Je m'arrête 30 secondes sur la superstition. Même des chrétiens croient qu'il ne faut pas passer sous une échelle. Ça porte malheur. Même des chrétiens, quand ils voient un chat noir, ils ont peur, une crainte. Et la Bible nous dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Et il nous avertit sur la superstition. La superstition, c'est pas bon. Ça laisse une porte ouverte au diable. Et il peut faire rentrer des choses mauvaises. Oui, la superstition. Quand on croit que parce qu'on n'a pas fait sa prière le matin, on est maudit. Quand on croit que parce qu'on ne s'est pas marié dans une église, notre mariage n'est pas béni. Ça, c'est la conséquence de la religion et ça s'appelle de la superstition. Ce n'est pas parce qu'un mariage ne s'est pas fait à l'église qu'il n'est pas béni. Dans la parole de Dieu, il n'y a aucun mariage qui se fasse à l'église. Relisez-la autant que vous voulez, il n'y a pas de mariage qui se fasse dans une église. Ça veut bien dire que ce n'est pas parce qu'on fait notre mariage dans une église qu'on est béni, et inversement. Dernièrement, je parlais à quelqu'un qui avait peur et me disait « Moi, je regrette, mon mariage n'est pas béni parce qu'on ne l'a pas fait à l'église. » J'ai dit « Mais non, c'est pas biblique ça, c'est pas de Dieu. » Ça, c'est la superstition qui découle de la religion. C'est pas de Dieu. Et on voit que tout ça, j'aimerais vraiment m'attarder sur ce sujet parce que je vois que chez plusieurs personnes, il y a des petites choses qui, par ignorance, restent inscrites et qui viennent de la religion, qui viennent de la culture, qui viennent de toutes sortes de choses. Et on n'est pas averti, alors on garde toutes sortes de craintes, toutes sortes de pratiques, toutes sortes de croyances qui ne sont pas bibliques. Et qui sont des portes ouvertes pour de l'oppression, et qui peut-être peuvent aussi finir par de la possession, je le crois. Et il faut qu'on soit averti sur ces choses. Le devin, celui qui devine. Et on peut croire que c'est biblique le devin. Regardez Joseph, regardez Daniel, il devine les rêves. C'est pas ça? On pourrait croire. On va relire ce texte pour voir que le devin, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu, quelqu'un qui aurait reçu un pouvoir qui lui permette tout le temps de dire et de deviner les choses. C'est pas possible. Ça vient du diable. Ça vient pas de Dieu. Et je crois qu'il y a des gens qui ont un certain pouvoir, mais il vient pas de Dieu. C'est des hommes qui sont influencés par les puissances des ténèbres. On lit dans Genèse 40, au verset 8, ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph, il est en prison, je remets le contexte, il est en prison. On voit qu'il y a deux personnes qui font un rêve dans la prison. Et ils disent, voilà, on est triste parce qu'il n'y a personne qui peut nous donner des explications. Qu'est-ce qu'il dit, Joseph? Moi, je sais faire. C'est ça qu'il dit? On le lit? Joseph leur dit, n'est-ce pas Dieu, à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Et au verset 15 et 16, il précise encore, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe trois corbeilles de pain sur ma tête. C'est 41-15, pardon. Oui, 41-15, Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph, il rectifie et répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Joseph, il donne, on peut le lire comme ça et ne pas y faire attention. Mais Joseph, il dit, je n'ai pas de pouvoir pour deviner les songes. Je n'ai pas de pouvoir pour expliquer les rêves. Ça n'est pas moi. Mais quand je demande à Dieu, Dieu, il me fait la faveur d'avoir une explication. Personne, et c'est un mal qui gagne les églises, c'est que les hommes, certains hommes, peuvent recevoir un pouvoir. Le pouvoir de prophète, le pouvoir de guérison. Et on appelle ça les dons de guérison, les dons de ceci, les dons de cela. Mais la Bible est claire, et si on avait bien traduit la Bible, on serait au clair. Personne ne reçoit un pouvoir pour faire ce qu'il veut, quand il veut. La seule chose qui fait que Joseph a pu expliquer les songes, la seule chose qui fait que les apôtres ont pu faire des miracles, c'est parce qu'ils dépendaient de Dieu. Mais le jour où ils arrêtaient de dépendre de Dieu, ils ne pouvaient plus rien faire. Vous comprenez ça? Et il faut s'arrêter, il faut arrêter de croire, et il ne faut surtout pas croire qu'un homme puisse recevoir un pouvoir de Dieu comme un guérisseur pour guérir. C'est un pouvoir, une bénédiction, une puissance que Dieu lui aurait donnée. Ça n'existe pas. Ça n'est pas biblique. On le voit pour Joseph et on continue dans Daniel. Prenez-le avec moi, Daniel 2. C'est pas facile ce que je fais ce soir. Vous savez qu'il y en a un qui n'est pas content. Et dans ma tête, quand je vois vos visages, il y a plein de doutes, il y a plein de choses qui passent, hein, vous savez. Daniel, chapitre 2, verset 16. Daniel se rendit vers le roi. On sait que le roi, il veut faire périr tous les magiciens, tous les devins, et même Daniel et ses amis, parce qu'il n'y a personne qui peut lui expliquer son songe. Donc Daniel, eh bien, se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. C'est-à-dire qu'il voit le roi, il dit « Donne-moi un peu de temps ». Qu'est-ce qu'il fait? Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Encore là, Daniel n'a pas le pouvoir d'interpréter les songes. Daniel, il implore Dieu de faire en sorte qu'on ne le tue pas. Et Dieu lui fait la grâce et il lui accorde la révélation. Mais Daniel n'a pas de pouvoir. Il n'est pas devin. Daniel dépend de Dieu. Et il reçoit l'explication parce qu'il, lui et ses amis, ils demandent, ils implorent Dieu de leur donner une solution à ce problème. Il n'y a pas de devin chrétien. Souvent, un jour, des gens sont allés voir David Wilkerson, qui est mort aujourd'hui, qu'on vraiment on peut qualifier de prophète dans le sens biblique du terme, c'est-à-dire vraiment proche de Dieu, à qui Dieu a fait grâce sur grâce et donné vraiment des visions, des choses. Je pense que Dieu le fait, mais toujours par grâce, parce que ces hommes dépendent de Dieu, ces femmes dépendent de Dieu, et ils viennent voir David Wilkerson et ils disent « Voilà, il y avait un pasteur et des anciens. » Et ils disent, voilà, on fait le tour du monde et on visite les plus grandes églises, celles où il y a eu les plus grands réveils, et on cherche la clé du réveil. David Wilkerson, alors qu'il avait accepté ce rendez-vous malgré son emploi du temps chargé, il lui dit, « Homme, en parlant au pasteur, « Oh homme, rentre chez toi et va dans ton bureau. » C'est ça la clé du réveil. Il n'y a pas d'homme prophète, d'homme devin, vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'homme devin vers qui on doit aller pour recevoir vraiment une révélation. Ça, c'est pour l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, il nous est dit que dans le Nouveau Testament, les gens reçoivent, que l'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair et qu'il suffit à chacun d'être dépendant de Dieu, d'aller chercher Dieu, la présence de Dieu dans son bureau, dans sa chambre, dans l'intimité. Et que chacun peut recevoir des visions, des songes, des prophéties, des interprétations, toutes sortes de choses. C'est pour ça que Paul il dit, j'aimerais que tous prophétisent, que tous parlent en langue, parce que c'est donné à tout le monde. C'est donné à tout le monde. Seulement, c'est ceux qui s'en emparent qui l'auront. Ceux qui sont violents envers eux-mêmes. Ceux qui se font violence, qui s'en emparent. Il n'y a pas de devin, je passe. Astrologue. Les astres, quand on va voir un peu les astres, dernièrement encore, j'ai une personne qui m'est proche, qui est venue et qui m'a dit, voilà Jérémy, moi je crois que quand même, quand on a un signe, quand on est né tel mois, je crois quand même qu'on est, on reconnaît un trait de caractère. Je crois que quand on est tel signe, eh bien vraiment on a tel trait de caractère. Je dis, mais man, un chrétien, est-ce qu'il doit s'attacher à ces choses-là? Mais non. Et c'est séduisant, c'est beau, mais c'est en abomination aux yeux de Dieu. C'est non seulement séduisant et ça peut nous perdre, mais pire, c'est en abomination aux yeux de Dieu. Dieu a horreur de ces choses-là. Pourquoi allez-vous questionner les astres alors qu'il y a Dieu? qui est tout prêt à vous répondre, tout prêt à nous répondre, à me répondre, à moi aussi. Pourquoi questionner les astres, la superstition encore? Témoignage. Il y avait un jour une dame qui lisait l'astrologie, vous savez, la voyance, toutes ces choses. Elle lisait chaque matin dans le petit magazine ce que la journée allait lui prédire ou la semaine, vous savez, l'horoscope. Merci. Et elle lisait. Elle était chrétienne, elle avait gardé ça dans sa vie. Et un jour, elle lit, attention, ne sortez pas, tout ça, etc. Mauvais augure, mauvais présage sur vous. Elle dit, oh là là, je ne vais pas aller à l'église. Je ne sors pas de chez moi. Elle dit, j'irai dimanche, parce que le dimanche quand même. Mais ce jour-là, non. Elle ne sort pas de chez elle. Elle reste à la maison devant la télé. Et le lustre de chez elle est tombé et il lui est tombé dessus. Et elle est morte. Elle serait allée à la réunion, le lustre ne serait pas tombé sur elle. Moi, je crois que l'astrologie, c'est dangereux. Il ne faut pas flirter avec ces choses-là. Quand les sciences occultes, quand le diable nous pousse à croire, à nous attacher à toutes sortes de choses séduisantes, mais autre chose que la parole de Dieu. Troisièmement, l'augure. Et je mettrai avec le diseur de bonne aventure. L'augure, quand on dit cet oiseau, un oiseau de bon augure, vous savez pourquoi on parle d'oiseau? Parce que c'est quelque chose qui vient des Romains. Les Romains, avec le vol des oiseaux, ils essayaient de discerner l'avenir. Ils lisaient l'avenir dans le vol des oiseaux. Et aujourd'hui, oh, c'est un oiseau de mauvais augure. Et on le dit, c'est rentré dans les mœurs, même dans la bouche, dans notre bouche à nous, on le dit des fois, un oiseau de mauvais augure. Ah, ça, c'est un bon présage. Ce n'est pas un langage qui devrait nous appartenir. L'augure, c'est celui, et la diseuse de bonne aventure, ou le diseur de bonne aventure, c'est celui qui va chercher à discerner l'avenir dans les objets ou dans les sensations. Où je sens qu'aujourd'hui, il va m'arriver quelque chose. Et on se laisse attrister. Quand on s'attache plus aux sensations qu'à ce que Dieu dit. Je sens rien, je ne vais pas bien. Je ne sens plus rien. Et le diable, il arrive à nous déstabiliser, à nous rendre faibles et à nous avoir. Le magicien, l'expert en magie. Le monde nous fait croire qu'il y a la magie noire et la magie blanche. Dieu dit, la magie, c'est pas pour nous. C'est pas pour l'homme, c'est pas bon. Harry Potter, c'est pas un bon sorcier. Harry Potter, c'est... Déjà, c'est un comédien, mais même s'il existait, tout petit sorcier qu'il soit, c'est l'ami du diable. C'est pas l'ami de l'homme. Et un magicien, donc expert en magie, c'est l'art de produire un effet contre la nature, forcer le sort. C'est quand il pleut et je voudrais du bon soleil, je vais commencer à faire des incantations, toutes sortes de sorcelleries, de la magie, toutes sortes de mélanges, des potions magiques. Quand on cherche à créer un miracle, Et quelquefois, on croit qu'à force de jeûne, on va créer un miracle. Qu'à force de prière, on va créer un miracle. Qu'à force de mortification, on va créer la vie éternelle en nous. On va croire qu'à force de bonnes œuvres, on va naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est contre nature, c'est pas naturel. La vie éternelle, le paradis, ça ne vient pas naturellement. C'est un don gratuit de Dieu. Mais les hommes, par toutes sortes de pratiques, cherchent à l'obtenir. La vie éternelle avec l'alchimie, vous savez, avec la pierre philosophale, l'homme qui ne meurt pas. Tout ce genre de croyances. Le magicien, l'enchanteur, un enchanteur, celui qui fait des enchantements, celui qui charme et qui séduit. Et peut-être dans notre pays ça se voit moins, mais j'ai déjà rencontré des personnes, à l'école on en parlait, des personnes qui disaient j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui me fasse une petite potion pour qu'elle tombe amoureuse ou qu'elle tombe amoureux. Ça fait rire et ça fait sourire, mais c'est toutes ces choses-là. L'enchanteur, celui qui par toutes sortes d'enchantements, toutes sortes de choses, cherche à charmer, à séduire. C'est qui le séducteur? C'est Satan. Ça paraît beau, l'ange de lumière, celui qui fait croire que c'est bien, que c'est beau. Attends, un enchanteur. Demander à quelqu'un qu'on tombe amoureux de moi, c'est pas méchant, attends, il n'y a rien de mal. Mais si, ça c'est une abomination aux yeux de Dieu. Vaut mieux se confier à Dieu pour notre conjoint et notre conjointe. Il sait ce qu'il nous faut et il est capable de nous l'apporter. Il a même réussi à créer une femme pour Adam. Même si elle n'existait pas la femme parfaite, pour nous, Dieu serait prêt à la créer. Non, il y en a, elle existe, la femme qu'il nous faut, l'homme qu'il nous faut. Il ou elle existe. Et Dieu, est prêt à l'approcher de nous. Pas besoin d'enchantement, pas besoin de toutes sortes de choses. Le Spirit, celui qui invoque les esprits. Le spiritisme, croire qu'on peut s'acquérir une puissance, une force par le spiritisme. L'invocation des démons, faire tourner la table, toutes sortes de choses, c'est séducteur. Les enfants, ils en sont fans de ça. Un jour, une jeune fille, elle était là et c'était la fille d'un chrétien. Lui, avant de se convertir, il a divorcé. Et donc, il a perdu tout contrôle sur sa fille. Généralement, vous savez, quand il y a un divorce, l'enfant, il sait plus trop où donner, il a plus trop de repères. Et donc, il écoute parfois plus personne. Et cette fille est allée dans un centre de, comment on dit, quand on va à l'école, mais 24 heures sur 24, vous savez, un internat. Elle est allée à l'internat, et comme dans beaucoup d'internats, il y a toutes sortes de spiritisme. Et il y a des copines, des copains qui l'ont invitée à invoquer des esprits. Et au début, elle voulait pas trop, elle avait peur, et puis un jour, elle a dit, allez, on va le faire pour s'amuser. Et puis elle y est allée. Et puis à un moment, les choses ont commencé à tourner, à voler, les objets ont commencé à s'affoler dans tous les sens. Elle a eu peur, elle est sortie, tout le monde est sorti en hurlant, parce qu'au début ils croyaient contrôler tout ça, hein, la table, les chaises, et puis au final, bouger quelque chose, au final ils ont perdu le contrôle. Et quand elle a vu ça, elle est sortie, elle avait déjà entendu la bonne nouvelle, elle avait entendu qu'il y avait Jésus, qu'il y avait Dieu. Alors en sortant, elle a dit, je vais rentrer dans une église. Elle est passée devant une église, je vais rentrer dans l'église. Elle a couru vers l'église, et juste avant qu'elle rentre dans l'église, elle a été griffée. Elle s'est retrouvée avec une griffure de en bas sur tout le dos. Je cherche pas à vous faire peur, mais c'est ce qui lui est arrivé. Et elle a été griffée juste avant. Elle est allée chez les médecins, ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle a touché au spiritisme. C'est séduisant, c'est beau, un pouvoir, tout ça. C'est pas de Dieu, c'est l'ennemi. Les nécromanciens, ceux qui parlent aux morts, ceux qui invoquent les morts, ceux qui questionnent les morts. Il est dit dans Deutéronome, celui qui fait de la nécromancie, il est en abomination. La Bible nous dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et je crois vraiment qu'il nous faut être clair, croire et être sûr que Dieu a donné le temps, notre vie, le temps de vie sur terre exprès pour que nous fassions notre choix. Et si on a choisi le Seigneur, pendant toute l'éternité, on va être auprès du Seigneur. Si on a réglé notre vie, si on a obéi à la parole de Dieu, si on a choisi Jésus comme sauveur, comme Seigneur, si on a cru à la parole de Dieu, ben rien d'autre à craindre. On est pour l'éternité au paradis. Mais je crois que s'il est important de prêcher, s'il est important d'annoncer, s'il est important de témoigner la bonne nouvelle, c'est parce que Dieu a laissé aussi ce temps. Parce que si jamais quelqu'un passe ce temps sans se soucier de Dieu, en rejetant la parole de Dieu, il va passer l'éternité dans les ténèbres. Et une fois qu'on est mort, dans Luc, il nous est parlé de Lazare et de l'homme riche. Vous connaissez cette affaire? Il est dit que les deux sont morts. Il y en a un qui est allé dans le séjour des morts, il y en a un qui est allé dans le sein d'Abraham. Et celui qui souffrait, l'homme riche, a vu de loin. Il a vu Abraham et Lazare dans son sein. Et il dit à Lazare, « Oh, s'il te plaît, dis à Lazare de tremper son doigt dans l'eau et de venir me toucher le bout des lèvres, parce que dans l'endroit où je suis, je souffre cruellement. » Et Abraham lui dit, mais c'est impossible, il y a un abîme entre toi et entre moi. Et il est impossible, et cet abîme est fait pour que si nous on voulait aller vers vous, ou si vous allez vers nous, ça ne serait pas possible. C'est pas possible. Même les morts sauvés et les morts perdus n'ont pas de dialogue entre eux. Et ceux qui parlent aux morts sont en abomination aux yeux de Dieu. Et un mort ne peut pas revenir dans le monde présent. Sinon, ceux qui sont dans le séjour des morts en enfer, ils viendraient. Et on voit qu'il dit, ben au moins que Lazare, il ressuscite pour parler. Et il dit, pour parler à mes frères et à mon père. Il dit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que même si quelqu'un des morts revenait à la vie, il ne croirait pas. Regardez avec Jésus. Et puis en plus, je pense que Jésus quand même a bien fait les choses. Il a ressuscité un Lazare. Lazare de Béthanie, plus tard. Est-ce que les gens ont plus cru? Pas du tout. Donc en fait, il y a bien eu un Lazare qui est revenu. Et peut-être que Jésus a donné cette parabole exprès, en disant, et encore que, on ne sait pas si c'est une parabole, cette affaire avec Lazare et cet homme riche. Parce que c'est la seule parabole où il y a un prénom de donné. Et il ne dit pas que c'est une parabole. Donc peut-être que c'est une histoire vraie. Jésus seul sait. Et on voit qu'il y a un abîme. Les morts ne peuvent pas voyager. Il n'y a pas d'intermédiaire entre la vie et le séjour des morts, ou le paradis, ou le Saint d'Abraham. Mais il n'y a plus le Saint d'Abraham depuis que Jésus-Christ est ressuscité. Il y a la présence de Dieu tout court. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de purgatoire. Dans les religions, dans les cultures, on nous enseigne qu'il peut y avoir des lymphes, quelque chose, ou un fantôme voyage. Mais ce n'est pas vrai. Et ceux qui font de la nécromancie, qui interrogent les morts, on voit même qu'à un moment, Saül, on le voit, vous l'avez vu, vous connaissez ce texte dans 1 Samuel 28, de 7 à 25, Saül, il va voir une femme qui interroge les morts. Et il lui demande d'appeler Samuel. Elle le fait, et il nous est dit que Samuel se présenta. Et lui dit, pourquoi tu m'as fait venir, tu m'as dérangé. Et on voit qu'il y a un dialogue, et Samuel prononce une malédiction, confirme une malédiction sur Saül, et lui prédit une malédiction. Et beaucoup de personnes se sont posées la question, beaucoup de commentateurs ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Samuel, il a pu revenir? Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables d'interroger les morts? Mais on voit dans 1 Roi 22, on voit que Dieu, parfois, permet à certains esprits mauvais de venir sur la terre, tromper les gens. On le lit, 1 Roi 22, verset 20. Et l'Éternel dit, « Qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse ?» Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment ?»« Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. » L'Éternel dit, « Tu le séduiras et tu viendras à bout. Tu en viendras à bout. Fort, sors et fais ainsi. » Et ce roi Achab, il va effectivement, par des faux prophètes, recevoir une parole de mensonge, une parole mensongère, il va croire qu'il peut aller faire la guerre et il va mourir à cette guerre. Dieu a permis, puisque le roi s'est endurci, ça nous dépasse, mais Dieu a permis qu'il y ait un esprit de mensonge qui aille tromper les prophètes et que les faux prophètes puissent tromper ce roi. Et je crois que c'est pareil pour un Samuel, que Dieu a permis à cette nécromancienne qu'elle croit avoir quelque chose, un pouvoir spécial, qu'elle invoque un certain Samuel et qu'un esprit mauvais se fasse passer pour Samuel. Et qu'il trompe le cœur de celle, en tout cas, qu'il lui raconte des choses, qu'il fasse croire qu'il est Samuel et qu'il le trompe. Des esprits de mensonge. Dieu a dit que celui qui résistait à Dieu, il se rendait coupable et que Dieu le réprouvait, que Dieu envoie un esprit de mensonge. Il est dit quelquefois que Dieu a endurci le cœur de certains qui n'arrêtaient pas de s'endurcir. Je crois qu'il y a un point de non-retour. Quand on touche à certaines choses et qu'on persiste, on touche à un point de non-retour et on se perd. C'est ce qui est arrivé à Saül. Et dans 1 Chronique, je vous le lis, 1 Chronique chapitre 10 et verset 13, il est dit ceci, « Saül mourut à cause de ce qu'il se rendit. » Coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. On voit que Saül devait simplement perdre la royauté, pas forcément mourir, parce qu'il s'était permis de faire un service qui était réservé aux prophètes. Parce qu'aussi, il n'a pas obéi quand Dieu lui a dit « Tu voueras tout par interdit », il a récupéré des choses. Dieu a dit « Je t'ôte la royauté », mais il n'était pas dit qu'il allait mourir. Mais puisque Saül a rajouté le fait d'aller invoquer, d'aller demander à ceux qui invoquent les morts un conseil, il a eu la mort. Il a eu la mort. La nécromancie. J'aimerais qu'on se rappelle pour prendre vraiment en considération les paroles du Seigneur. Qu'on se rappelle que dans la parole, il est dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Que la désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie. Et le fruit de la divination et de l'idolâtrie, c'est la possession ou l'oppression. Quand on touche à l'occultisme, quand on touche aux puissances des ténèbres, quand on touche à toutes sortes de choses comme ça, je l'ai dit, à l'astrologie, l'augure, les diseuses de bonne aventure, le magicien, les enchanteurs, les spirites, la nécromancie ou la divination, quand on touche à ça, on ouvre une porte et on laisse un accès au diable. Et des gens se retrouvent possédés à cause de ce qu'ils ont touché, qu'ils sont allés voir des voyantes, des voyants, toutes sortes de choses. Et il nous est dit que la désobéissance est aussi coupable. Ça veut dire que la personne qui refuse d'obéir à Dieu, il ouvre la même porte au diable. Que ça puisse nous pousser à réfléchir. Mais je ne veux pas rester sur quelque chose comme ça. Je pense que si quelqu'un était oppressé, quelqu'un même était possédé, je pense que Dieu peut le délivrer, que Jésus peut le délivrer. Dans Jean 8, 36, Jésus dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et je pense que Dieu nous avertit, il a donné la parole, pour que si quelqu'un a touché à ces choses, il s'en détourne, et que avant qu'il soit au point de non-retour. On le voit dans la parole de Dieu, plusieurs démoniaques, plusieurs magiciens, plusieurs personnes qui touchaient à toutes ces choses ont été sauvées et ont été guéries, ont été délivrées. Plusieurs personnes. Et je crois qu'il faut garder cette parole aussi. C'est dans Nombre 23-23, je vous le lis encore, « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu ?» L'enchantement et la divination ne peuvent rien contre le peuple de Dieu. Peut-être quelqu'un est là et se dit « Oh là là, mais moi je me sens si faible face à ces forces ténébreuses. Moi j'ai la famille qui touche à l'occultisme. Moi j'ai un papa, une maman qui fait toutes sortes d'invocations, de vaudous, des choses comme ça sur moi. Et je sais pas, je sens que je suis faible. Je me sens pas capable. » J'aimerais vous rassurer. Si vous avez donné votre cœur à Jésus-Christ, le nom de Jésus est sur votre vie, le sang de Jésus est sur les linteaux de votre cœur, de vos portes, et le mal ne peut pas avoir accès à l'intérieur, la mort ne peut pas rentrer chez vous, et vous êtes protégés. C'est une parole sûre et certaine. Oui, ces choses existent, et il faut s'en préserver. Oui, ces choses existent, et il ne faut surtout pas y toucher. Un chrétien ne doit pas garder de superstition ou de crainte face à ces choses, car la Bible a dit ceci, c'est que le mal... Ces choses-là, la divination, les puissances ténébreuses, n'ont aucun pouvoir sur ceux qui sont à Christ. Et dans Luc 10, au verset 19, Jésus dit ceci, Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Il n'y a pas de « Amen ». Moi, je crois que rien ne peut me nuire si Jésus est dans mon cœur. Si mon cœur est habité par le Seigneur, par le Saint-Esprit, il n'y a plus de place pour les choses mauvaises. Et je ne crains rien. Je ne crains rien. Quelques témoignages pour vous encourager aussi. Mon père, il faisait les marchés. Il faisait les marchés, je termine avec ça. Il faisait les marchés et il était là et il avait toujours sa même place. Et un jour, il y a une voyante qui vient avec son stand et qui prend sa place parce que mon père n'était pas là. Et les gens autour avaient l'habitude de voir mon père venir avec ses Bibles. Ils étaient surpris, ils ne lui parlaient pas trop, mais ils le voyaient. Et quand la voyante est arrivée, ils ont tous allé voir la voyante. Ils ont dit « Oh, mais c'est la place du pasteur ici, vous n'avez pas le droit de vous mettre. » Et alors la femme, « Vous inquiétez pas, quand il sera là, on parlera. » Et puis les gens et tout, ils étaient là, ils disaient « mince et tout ». La fois d'après, quand mon père est arrivé, il venait très tôt, donc il a trouvé sa place normalement, et les gens lui ont dit « il y a une voyante qui est venue, qui a pris votre place, etc. » Il dit « ah bon, on va voir si elle revient ». Et puis, voilà qu'elle vient, la place a été prise, elle s'est mise juste à côté. Il y avait la Bible et la voyance, le Seigneur et le diable. Et puis, il y avait ces deux stands, et mon père, il se dit « mince, je suis à côté de la voyance ». Il dit, c'est bizarre quoi. Et il dit, ben tant pis. Et il commence à prier, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu empêches ces gens, les gens de rentrer chez elles. Tu fais que personne ne soit attiré, mais qu'ils soient détournés jusqu'à mon stand. Et puis les gens, ils venaient, et puis ils s'arrêtaient à son stand, et puis ils étaient détournés, comme aimantés par le stand avec la Bible. Et la femme, au bout d'un moment, la voyante, elle sort. « Qu'est-ce que vous avez fait? Il n'y a plus personne qui vient. Et puis tout le monde va vers vous. Et puis qu'est-ce que vous avez fait ?» Tout ça, on se met en colère. Et lui dit, « Mais vous n'avez pas compris? C'est que le Seigneur est plus fort, mon Seigneur est plus fort que votre Seigneur. » Il dit, « Alors, arrêtez tout ça, c'est pas bon. » Elle se met en colère et tout, elle démonte le stand, elle part. Et là, la fois d'après, elle se met à l'opposé du camp. Mais pareil, ça marchait plus. Et ça marchait plus. Je crois que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Autre chose, un jour, on est à Carrefour, et puis il y a une femme, vous savez, une femme du voyage qui vient et qui dit, « Voilà, monsieur, je voudrais vous lire la Bonne Aventure. » Et mon père, il dit, « Oh là là là, la Bonne Aventure. » Il dit, « Non, 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 mais ça ne m'intéresse pas tout ça. » Et puis elle dit, « Si, 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 si. » Et puis elle insiste. Puis il dit, « Allez-y. » Mais il savait, dans son cœur, il savait. Et puis il voulait trouver une occasion de lui parler. Et commence à lire et fait, « Ah ! Vous êtes pasteur !» Il dit, « Ben oui, comment vous l'avez lu ?» Elle dit, « Je ne sais pas. Je l'ai su. J'ai senti quelque chose. » Il dit, « Oui. J'aimerais que vous sachiez que ce que vous faites, c'est pas bien. » Il a commencé à lui rendre témoignage. Je crois que les puissances des ténèbres, elles n'ont aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Un jour, des jeunes ont commencé à se moquer. Les jeunes de l'église, des jeunes chrétiens, des Anglais, très récalcitrants. Ils ont commencé à être des rebelles. Vous savez, quand on grandit dans l'église, on a l'impression, on voit tous les défauts de l'église. Et il y en a des fois des défauts, hein. Moi le premier, il y en a. Et ils ont grandi, ils ont surtout retenu les défauts. Et ils ont dit, venez. Ils se sont ligués à quelques-uns quand ils sont devenus un peu plus grands. Ils ont dit, on va faire le club de l'enfer. Et ils ont commencé à vouloir faire le club de l'enfer. Et puis ils étaient là, toutes sortes, ils se moquaient de la parole, ils se moquaient de Dieu, ils se moquaient des pasteurs, etc. Et ils passaient leur soirée, ils se donnaient des rendez-vous où ils faisaient que ça. Et ils avaient dit, on est le club de l'enfer. Et puis, à un moment, il y a les jeunes, ils ont dit, allez, venez, on va imiter le pasteur Intel. On va l'imiter et on va faire comme lui. On va le refaire, on va se moquer. Allez, venez. Et puis les uns après les autres, ils ont pris des paroles comme ça, ils ont dit, voilà, ils ont commencé à se moquer en aggravant les mimiques, vous savez, tous les défauts qu'on a. Et ils se moquaient les uns après les autres. Et il y avait le plus virulent du groupe qui a dit, moi, arrêtez, je vais faire mieux que vous. Et il ouvre la parole, et il est là, il ouvre la parole et il dit, voilà, moi, je vais faire mieux que vous, je vais prendre le verset. Il ouvre la parole et il tombe sur ce verset. Il ouvre la Bible, il tombe sur ce verset. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous. Et là, il tombe à genoux. Il tombe par terre. Il se met à pleurer. Il sort de la pièce où il faisait tout ça. Et il pleure. Et dit, Seigneur, je te demande pardon. Une parole qu'il a lue dans Luc 13, 3. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous. Alors qu'il s'était moqué, une parole du Seigneur l'a convaincu de péché. Et la sortie de là. On s'inquiète pour nos enfants. On s'inquiète peut-être pour ceux qui sont plongés dans l'occultisme. Toutes sortes de choses. Faisons confiance. Prions pour eux. Intercédons. Déposons ce fardeau. Ce poids qu'il y a dans notre cœur. Déposons-le. Car Dieu est plus grand. Et avec une parole. Il a dit devant les démoniaques, devant les démons qui lui demandaient la permission d'aller se jeter dans les pourceaux. Il a dit une parole. Un mot. Il a dit, allez. Et ils se sont jetés dans les pourceaux. Un verset. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous, convaincus de péché. Et aujourd'hui, à cette époque, s'il y a un bon moment, cet homme, ce jeune homme, a été convaincu de péché. Il est rentré dans le ministère. Il est devenu pasteur, un puissant pasteur pour le Seigneur. Merci Jésus. Dieu l'a délivré de sa moquerie quand on se moque. Ne touchons pas à tout ce qui est occultisme. Ne touchons pas à tout ça. C'est des puissances de ténèbres, je crois vraiment, qui veulent nous tenir liés. La superstition, c'est pas de Dieu. C'est une porte ouverte au diable pour vous embêter. Les chiens noirs, tout ça, c'est Dieu qui l'a fait. Merci Seigneur pour le noir, pour le blanc, pour tout. Ok ? Merci Seigneur. Et nous, soyons dans la confiance et dans le repos, parce que rien ne peut nous atteindre qui ne soit permis par le Seigneur. Amen. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à chacun. à réaliser que tu es plus fort, que tu es vivant, que tu es puissant pour délivrer ceux qui sont oppressés, ceux qui sont embêtés, Seigneur, ceux qui sont prisonniers même de l'occultisme, de la superstition. Peut-être quelqu'un est là, il ne veut pas croire ces choses, mais c'est comme plus fort que lui. Il a été habitué ou il a été plongé, il y a touché une fois, et il y a comme un lien. Moi, je crois, Seigneur, que tu délivres. Je crois, Seigneur, que tu peux libérer quelqu'un. Et simplement, Seigneur, je ne pense pas qu'il y ait besoin vraiment, Seigneur, de faire un appel particulier. Simplement, que celui qui est dans ce cas, qu'il crie à Dieu, et le Seigneur va l'aider, le Seigneur va le secourir. Si quelqu'un est dans la crainte et a peur parce que sa famille est là à l'opprécier, Seigneur, tu le protèges, tu lui montres, tu lui ouvres les yeux, comme tu as ouvert les yeux à ce serviteur le jour où il y avait une armée qui venait contre le prophète. Il a prié, il t'a prié, tu lui as ouvert les yeux à ce serviteur, il a vu toute l'armée et il a vu que ceux qui étaient pour nous étaient en plus grand nombre que ceux qui étaient contre nous. Merci mon Dieu parce que tu es une grande armée, tu es puissant pour nous et que ton nom est inscrit sur notre cœur. Seigneur, ton sang a coulé et il a coulé sur mon cœur. Il m'a lavé de tout péché, Seigneur. Et aujourd'hui, l'ange de l'Éternel passe outre et moi je suis exonéré de ta colère, exonéré de cette vulnérabilité quant aux puissances occultes. Tu nous protèges et tu nous gardes, Seigneur. Amen. Merci mon Dieu. Amen.